Chapitre 23. Quincy, ayant trouvé la voiture de Shelley devant la maison des Duval, y entra à son tour et découvrit le shérif dans la chambre de Telly plongée dans le noir. Une silhouette était allongée sur le lit. Quincy se baissa par réflexe vers son arme de cheville lorsque le stylo que tenait Shelley s'alluma et que le plafond s'illumina, ainsi que les murs. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Héros ou zéro? Qui suis-je? Ces mots recouvraient le plafond, les murs lambrissés. Écrits en grosses lettres par endroits, mais aussi entassés en caractères incroyablement petits dans les coins. Autre jour, autre humeur, se dit Quincy. Mais toujours la même question brûlante, obsédante. Qu'avait dit la conseillère de probation Ali Sanchez au sujet de ce garçon? Qu'il vivait sur le fil du rasoir. Là, sous le rayon de la lampe UV, Quincy sentait presque physiquement l'angoisse chronique de l'adolescent irradiée des murs de sa chambre. Qui suis-je? Bonne question. Héros ou zéro? Une alternative dont Telly Reinach avait déjà eu du mal à se sortir par le passé. Graphomanie, diagnostiqua Quincy. Shelley fit brusquement volte-face en portant la main à son arme. Quincy comprit qu'elle ne l'avait pas entendu entrer. Elle poussa un soupir de soulagement et baissa le stylo lumineux pendant que la deuxième personne se redressait sur le lit. Je parie que si on trouvait un de ces cahiers de lycée, on s'apercevrait que le moindre centimètre carré est également couvert d'écriture. Peut-être de cette même phrase. C'est une forme de toc. Certaines personnes se lavent compulsivement les mains pour calmer leur anxiété. Telly doit écrire. Je n'ai pas vu de cahier. La deuxième personne se leva du lit en tenue de randonnée. Chaussures, pantalons clairs, chemise verte. Bonjour, Cal Noonan, pisteur, et accessoirement responsable de production à l'usine de fromage si vous êtes amateur. L'homme tendait la main, Quincy l'a pris. Pierce Quincy, consultant pour les services de police. Shelley a fait appel à moi en tant que spécialiste des individus déviants. Vous êtes profileur? On ne peut rien vous cacher. Quincy ne quittait pas Shelley des yeux. Celle-ci secoua la tête, devinant sa première question avant qu'il ne l'ait posée. L'avis de recherche est lancé, mais toujours aucune nouvelle de Charla. Elle s'éclaircit la voix. Charla, la fille adoptive de Quincy, est la petite sœur de Telly, expliqua-t-elle à Cal. Le pisteur se tenait entre eux, les mains sur les hanches. Et elle a disparu? De son propre chef? C'est le plus probable. Pour retrouver son frère, vous pensez? Ma fille a 13 ans. Si j'ai appris une chose, c'est qu'avoir une adolescente m'est hors d'état de pensée. Cal était d'accord. En ce moment, ma mission consiste à raisonner comme un gamin de 17 ans. Et je serai le premier à dire que c'est lui qui est en train de gagner. Vous ne devriez pas être en forêt? Ou bien vous croyez qu'il va repasser ici? Il est en quad. À cette vitesse-là, je ne peux plus suivre. Dans l'immédiat, on attend qu'un hélicoptère le repère, qu'un témoignage arrive au numéro d'urgence ou que la chance sourie au patrouilleur. En attendant, j'ai demandé à Shelley de me conduire ici, au cas où je remarquerai quelque chose, étant donné mon intérêt particulier pour cette enquête. L'air grave, Cal considéra Quincy et expliqua. Il a blessé deux membres de mon équipe. Pas moyen que je lâche l'affaire. Je suis désolé. La journée a été rude pour beaucoup de gens. Répondit sobrement Cal. Alors, quelle découverte avez-vous faite? À part ça. Ils n'ont pas la manie d'écrire, ces types-là? Demanda Cal. Pas des gribouillages sur les murs de leur chambre, je veux dire, mais des messages sur les réseaux sociaux, un journal intime, une liste de personnes à abattre. En théorie, oui. Mais vu ce qu'on voit ici, je pencherais davantage pour un journal intime que pour des messages sur les réseaux sociaux. Pas de journal intime dans cette chambre, indiqua Shelley. Il l'aurait emporté? Demanda Cal. C'est possible, concéda Quincy. Mais, le relança Shelley. La plupart des tireurs de masse veulent faire entendre leur colère, donc ils rendent leurs lettres, leurs messages facilement accessibles. S'il avait réellement un journal intime, il aurait dû le laisser en évidence pour qu'on le trouve. Dissimuler ses écrits relèverait d'un autre type de comportement, mais sommes-nous dans ce cas de figure? Je n'en suis pas certain. Il se tourna vers Shelley. Des pistes intéressantes dans l'ordinateur?
Pas que je sache. Mais pour être franche, l'agression de l'équipe de recherche nous a un peu désarçonnés. D'un côté, j'ai des renforts qui débarquent des quatre coins de l'État pour nous prêter main forte, mais en contrepartie, c'est d'autant plus difficile de rester concentré et efficace. Shelley confirma d'un signe de tête et Quincy vit combien cet aveu lui coûtait. Vous avez bien fait de venir ici, la rassura-t-il. En cas de doute, il faut revenir aux fondamentaux. Et vous avez raison, dit-il, élargissant son discours de motivation des troupes à la personne de Cal. En tout état de cause, tout part d'une source, d'un individu. Telly Ray Nash. Mieux on le cernera, plus on aura de chances de progresser. Donc, que savons-nous jusque-là?
C'est un adolescent perturbé, répondit Shelley. Et nous venons de croiser le fils aîné des Duval, Henry. D'après lui, ses parents étaient des gens formidables, très attachés à l'idée d'aider un jeune comme Telly à mettre de l'ordre dans sa vie. Reste que Telly a grandi dans un environnement violent et qu'il était connu pour avoir du mal à se maîtriser en situation de stress. Or, rien qu'à voir les murs de sa chambre, il est très stressé en ce moment.
Quincy hocha la tête. Autrement dit, les parents biologiques de Telly avaient peut-être mérité leur sort, mais les Duval...
Nous n'avons trouvé personne pour dire un mot contre eux, dit Shelley. Je ne sais pas ce qui a provoqué le déchaînement de violence de ce matin.
Mais l'explication se trouve sans doute davantage du côté de Telly que des Duval. Shelley était d'accord.
Cela dit, petit détail intrigant. Nous avons un témoin qui dit avoir vu Telly à la station EZ Gaz il y a 2 semaines accompagné d'un jeune homme répondant au signalement de Henry Duval.
Quincy leva un sourcil étonné.
Pour être honnête, ce signalement correspond à peu près à la moitié des jeunes gens de la région. Mais bon, je me dis que je vais demander à un enquêteur de se renseigner sur l'emploi du temps de Henry il y a 2 semaines.
Est-ce qu'à notre connaissance, Henry aurait une raison de vouloir s'en prendre à ses parents?
Aucune. Mais nous avons beaucoup plus d'interrogations que de certitudes. Par ailleurs, Henry affirme que ses parents n'avaient ni amis proches ni relations. Le grand amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre leur suffisait.
Quincy ne réagit pas au ton sarcastique de Shelley. Sincèrement, on aurait pu en dire autant du couple qu'il formait avec Rainy, même si celle-ci aurait levé les yeux au ciel à cette idée. Mais de fait, leur cercle de relations restait limité et ils passaient la plupart de leurs soirées ensemble à la maison. Avec Charla, bien sûr. Cal prit la parole.
Telly en a dans la caboche. Pour moi, tempérament explosif rime toujours avec impulsivité, mais là, je ne sais plus. D'après ce que j'ai vu ce matin, ce n'est pas le dernier des imbéciles. Suivre le fossé de drainage depuis la station-service était bien vu de sa part. Et ensuite, dans la troisième maison, prendre le temps de modifier son apparence...
Pardon ? Le coupa Quincy.
Il a changé de t-shirt, pris une casquette, et il s'est même mis du cirage sur le visage, pour se rendre méconnaissable, je suppose. Et ensuite, il a volé le quad, bien sûr. S'il a fait tout cela dans un accès de colère, c'est l'enragé le plus futé que j'ai jamais rencontré.
Quincy était soucieux. Pas des bonnes nouvelles, tout ça.
Il se tourna vers Shelley. D'après Ali Sanchez, les précédents épisodes de violence de Telly étaient explosifs. Il pétait un plomb, si vous voulez. Et ensuite, il ne se souvenait même plus de ce qu'il avait fait. Mais si maintenant il s'organise pour modifier son apparence et vole des véhicules pour échapper aux forces de police, Monsieur Noonan marque un point. On n'en est plus au stade de la rage explosive et des gestes impulsifs. Telly sait ce qu'il fait. Il n'est pas dans un état de confusion mentale dont il pourrait ressortir d'un seul coup.
Shelley resta muette devant ce constat sans appel.
Quincy observa de nouveau la chambre. Suivant l'exemple de Shelley et du pisteur, il fit de son mieux pour se mettre dans l'état d'esprit de l'adolescent perturbé. Un ado dont les premières années avaient été marquées du sceau de la violence. Sauf qu'à l'époque, il avait une sœur, et que d'après les informations recueillies par Rainy, il lui était même attaché. Cela peut sembler une évidence pour le profane, mais les liens noués dans la petite enfance sont fondamentaux. En fait, ils auraient dû préparer le terrain pour que Telly puisse en nouer d'autres, avec les Duval par exemple, qui avait sérieusement le projet de lui offrir un foyer. Problème, il les avait tués aussi. D'après les témoignages, les deux environnements familiaux étaient on ne peut plus différents, mais ils avaient conduit au même résultat. Quincy n'aimait pas la conclusion logique à en tirer, surtout pour Charla.
« Il faut qu'on le retrouve », murmura-t-il,
davantage pour lui-même que pour Shelley et Cal. Peut-être que Telly a d'abord agi sous l'emprise d'une rage incontrôlable. Il a abattu ses parents, perçus comme une menace, et ensuite il est allé à la station-service sous le coup d'une colère aveugle. Mais il a dépassé le stade explosif. Le plus probable est qu'il a désormais un plan, et qu'il ne s'arrêtera pas avant de l'avoir mis à exécution. « Quel plan ?» demanda Shelley. « À nous de le découvrir. » Ils se séparèrent. Cal voulait inspecter le garage pour voir si du matériel aurait disparu. Frank Duval avait la réputation d'aimer les sorties au grand air. Il possédait sans doute au moins une tente, un sac de couchage et autres accessoires. S'il n'était plus là, cela signifierait que Telly était mieux équipée qu'il ne le pensait jusqu'alors. Shelley s'installa dans le séjour pour faire le point avec la cellule opérationnelle. Quincy resta donc seul dans la chambre de Telly. Il repensa à Cal allongé sur le lit et se rendit compte que la méthode n'était pas mauvaise. « Penser comme sa cible », voilà ce que Cal avait dit. Or, c'était exactement le but d'un profileur. Quincy n'opta pas pour le lit et préféra s'asseoir au bureau. Il prit les livres de poche, passa le pouce sur leurs tranches usées. Des thrillers militaires. Des histoires où la ligne de partage était claire entre le bien et le mal, et où les gentils l'emportaient toujours à la fin. Héros ou zéro. Une partie de Telly voulait clairement être le héros. Le grand frère qui avait sauvé sa petite sœur. L'adolescent perturbé qui, d'après sa conseillère de probation, se démenait pour s'en sortir. Qu'avait dit Ali déjà ? Quand il faisait des efforts, Telly était un bon gamin. Il était un héros à sa petite échelle. Alors qu'est-ce qu'il avait fait basculer ? On décrivait les Duval comme une famille d'accueil structurante. Mais cela signifiait sans doute aussi que Telly devait suivre des règles, répondre à des attentes. Avait-il été impliqué dans une nouvelle rixe à ses cours de rattrapage ? S'était-il fait prendre en flagrant délit de mensonge ? Était-il tombé dans l'alcool ou la drogue ? Quincy commença à ouvrir méthodiquement les tiroirs. Bureau, table de chevet, vieille commode en bois. Dans le cadre de leur formation de future famille d'accueil, Rainy et lui avaient été priés d'assister à une conférence sur les jeunes et la drogue. Ça les avait fait bien rire. Deux experts en criminologie forcés de prendre un cours sur la détection des toxicomanies. Mais en fait, ils en avaient beaucoup appris pendant cette heure. En tant que profileur, ils ne travaillaient pas sur des affaires de stupéfiants. Et non, ils n'auraient jamais pensé à cacher du papier à cigarette entre les pages d'un livre, des aiguilles de seringue dans le corps de stylo, ni des sachets de poudre derrière la mousse de haut-parleur. Les adolescents ayant en permanence des appareils électroniques à la main, ces objets étaient des moyens épatants pour transporter de la drogue ni vue ni connue. Mais si Telly était accro, Quincy n'en trouvait aucun indice. Et de toute façon, plus il y pensait, moins l'idée lui semblait plausible. D'après Ali Sanchez, Telly avait été témoin des ravages de la drogue et de l'alcool chez ses parents. Étant déjà passé par là, il avait plus de raisons que la plupart des jeunes de s'en tenir éloigné. Bien entendu, on ne pouvait jamais prédire ce qui était susceptible de pousser un individu à prendre les armes. Telly avait pu s'attirer une punition de bien des manières, punition qui avait en retour alimenté son ressentiment ou sa colère. Mais si les Duval en étaient bien la cible, pourquoi Telly les avait-il tués dans leur sommeil ? En théorie, il aurait dû vouloir qu'ils soient éveillés, terrorisés, obligés de s'incliner devant lui et le droit de vie ou de mort qu'il possédait désormais sur eux. Le pouvoir. Voilà quel était l'objectif réel des tueurs fous. Ce moment où ils seraient enfin aux commandes. Le vomi. Quincy se souvint de ce détail qu'il avait chiffonné tout à l'heure. Le gamin avait vomi dans le parking de la station-service, mais pas ici, chez les Duval. Si ce garçon était un délicat, ses premiers meurtres n'auraient-ils pas dû le perturber davantage que les suivants ? À moins qu'il ne se soit trouvé dans un état de dissociation mentale la première fois. Ça, c'était possible. Une contrariété avait déclenché une crise, provoqué une explosion de colère. Il était passé à l'acte. Puis il avait réagi, volant des armes, la voiture, du matériel, probablement sous le coup de la panique. « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Tirons-nous d'ici !» Il avait démarré sur les chapeaux de roue dans la voiture de Frank Duval, pour aller n'importe où. Jusqu'à ce que le moteur fasse une surchauffe et que Telly se retrouve à pied, qu'il prenne enfin conscience du pétrin dans lequel il s'était fourré. La transition s'était peut-être effectuée à ce moment-là. Le meurtre des Duval était un acte impulsif, mais sur ce bord de route, dans la chaleur intolérable, Telly avait pleinement réalisé les conséquences de son geste. Fini les doutes. Héros ou zéro, Telly tenait sa réponse. Le débat étant clos, il allait faire ce que les tueurs font le mieux.
Quincy souleva le matelas, fouilla sous le lit, déplaça la commode, le bureau, chercha des lames de parquet mal fixées. Rien, rien, rien. On frappa quelques coups sur l'encadrement de la porte. Cal Noonan se tenait sur le seuil de la chambre.
« Il faut que vous voyez ça. »
La tente a disparu. Un sac de couchage, un grand sac à dos, je dirais. On voit que c'était dans ce coin que Frank Duval rangeait son matériel. Maintenant, il est au moins à moitié vide.
Quincy se trouvait dans le garage avec Cal et Shelley. Le pisteur rendait ses conclusions. Quincy et Shelley l'écoutaient religieusement.
Je suis aussi descendu au sous-sol pour jeter un œil à l'armoire forte. Ça m'a donné une idée. Le tir sportif demande aussi tout un attirail. Table pour les préparatifs, lunettes de sécurité, bouchons d'oreilles, nécessaires de nettoyage, et bien entendu des sacs pour emporter tout ça au stand. J'ai trouvé une table pliante et des protections pour les yeux et les oreilles, mais rien au rayon housse de transport ou kit de nettoyage.
Telly a emporté pas mal de matériel, résuma Shelley d'un air soucieux.
Mais on n'a rien retrouvé de tout ça dans la voiture de Frank Duval ni aux alentours.
Précisément. Son équipement représenterait un volume trop important pour qu'il l'ait caché derrière un arbre. Mon idée, c'est qu'il avait déjà dû le déposer quelque part avant que la voiture ne tombe en panne.
Il aurait une base opérationnelle, comprit Quincy.
La mauvaise nouvelle, souligna Cal, c'est qu'il est beaucoup mieux préparé que nous ne le pensions.
Et la bonne, plaisanta Shelley.
Sa base doit se trouver dans les environs, n'est-ce pas? Et comme il a ce campement, il n'ira pas très loin. Ce n'est pas une fuite perpétuelle. Il a une planque. Ça peut jouer en notre faveur.
On a des images de vidéosurveillance qui le montrent en train de traverser la ville en voiture vers 7h30, dit Shelley. On aperçoit comme un grand sac noir à l'arrière du véhicule.
Ça signifierait que son camp de base se trouve au nord de la ville. La question suivante est de savoir si Telly aurait un lieu de prédilection, un endroit où il aurait déjà campé, un stand de tir préféré.
La plupart des gens de la région vont tirer dans une certaine clairière, indiqua Shelley. Mais ce serait trop voyant pour y camper.
Quincy intervint. Rainy a fait une rapide recherche sur les Duval. Sandra publiait régulièrement sur Facebook, notamment des photos de Frank et Telly en partance pour diverses excursions en forêt. On pourrait peut-être trouver là des allusions à des lieux de bivouac, à des coins de pêche. Ou des photos avec suffisamment de paysages en arrière-plan pour identifier l'endroit.
Est-ce qu'il irait dans un lieu qu'il associerait à Frank Duval? Demanda Shelley. N'oublions pas qu'il venait de le tuer.
Il a dû aller dans un endroit où il se sent bien, suggéra Cal.
Quincy approuva.
À l'heure qu'il est, Telly a conscience de ce qu'il a fait, expliqua-t-il. Et entre bouffées de colère et dégoût de lui-même, il éprouve aussi de la peur. C'est un voyage sans retour. Il va lui falloir des moments où se poser. Or, il ne peut le faire que dans un endroit où il se sent en sécurité.
Quincy ne prit pas la peine d'ajouter qu'avec un peu de chance, Telly profiterait d'un de ces moments pour mettre un point final à sa peur et à son dégoût de lui-même. Une simple pression sur la détente, et Telly Reynache n'aurait plus jamais à se demander qui il était. Mais ce serait alors au tour de Charla de se tourmenter avec cette question.
Il faudrait interroger l'entourage des Duval, conseilla Quincy. L'idéal serait un compagnon de chasse ou de tir, des gens qui soient en mesure de fournir une liste des destinations préférées de Frank.
Son fils a peut-être la réponse, dit Shelley. Il y a de fortes chances que Frank ait emmené Telly sur les lieux de certaines sorties qu'il avait faites avec Henry. Il pourrait aussi nous dire exactement ce qui manque dans le matériel de camping.
Ça nous fournit aussi un prétexte pour l'interroger une nouvelle fois sans trop éveiller sa méfiance, renchérit Quincy.
J'aime bien votre façon de voir les choses.
Une dernière chose, dit Cal. Il piétinait d'un pied sur l'autre, manifestement mal à l'aise. À l'autre bout, il y a une pile de cartons au nom de Telly. Ils m'ont l'air d'être remplis d'une vieille batterie de cuisine, d'articles ménagers, mais j'y ai aussi trouvé un coffret métallique. Trop neuf pour avoir été acheté dans une brocante. Ça a éveillé ma curiosité.
Cal montra le coffret, en fit tourner le verrou. Le couvercle s'ouvrit d'un seul coup et ils en découvrirent le contenu.
4 photos, constata Quincy, semblables à celles qu'il avait vues plus tôt dans la journée. Charla marchant avec Luca, Charla devant chez eux. Mais elle portait un autre t-shirt, remarqua-t-il. Il s'agissait d'autres photos prises un autre jour que celles qu'on avait retrouvées sur le portable de Telly. Telly Reinach avait bel et bien traqué sa petite sœur. Et ces photos se distinguaient par un détail supplémentaire. Sur chacune d'elles, centrée sur le visage de Charla, il avait dessiné un réticule de visée. Après avoir photographié sa sœur, Telly l'avait transformée en cible vivante.